the shackles of yesterday, and shoulder to shoulder into the fray. Our daughters' daughters will adore us, and they'll sing in grateful chorus. Well done, well done, well done, sister suffragette.
Stars, they come and go.
Voilà, voilà, voilà. On a un mini problème technique, mais comme on n'est que à deux, eh bien, on l'a fait, la bonne franquette, en interview, direct. Voilà, Réal, bienvenue dans les studios de Radiophanique que tu connais. Et donc, tu es venu pour présenter ce festival qui a lieu ces prochains jours. Et donc, explique-nous à nous et aux éditeurs et auditrices de Radio Panique d'où vient l'idée et quel était ton projet pour cette espèce de carte blanche que tu as pu avoir.
Bonjour à toutes et à tous. Ça se passe au Théâtre de la Vie. C'est un festival qui a lieu depuis 6 ans. C'est une biennale qui s'appelle le Festival des mots des notes. L'ancienne directrice du théâtre, qui s'appelle Peggy Thomas, a une passion pour tout ce qui est théâtre musical et musique sur scène. Elle est metteuse en scène, entre autres. Et elle a créé ce festival pour mettre en avant le théâtre musical. Ce qui fait qu'il y a 4 ans, mais c'est elle qui l'a programmé. Elle s'est chargée aussi de donner ces 3 cartes blanches qui constituent le festival à des personnes différentes chaque année. Il y a 2 années, c'était la chanteuse et actrice Daphné Deur qui a pu programmer. Et puis cette année, elle est venue vers moi. Et donc le concept est assez simple, c'est 3 cartes blanches qui durent entre 30 et 35 minutes, qui ont lieu toutes les 3, tous les soirs du festival. En l'occurrence là, le festival commence demain soir à 20h et ça se termine samedi, donc 22, 23 et 24 juin. Et moi j'ai voulu donner un fil conducteur à ces 3 cartes blanches, vraiment en partant sur la possibilité de chaque artiste de s'exprimer dans sa spécialité. Et on a travaillé, j'ai d'abord travaillé à chercher ces artistes avec qui je voulais travailler. Il y avait un collectif de femmes qui s'appelle Les Soupirantes, qui est un chœur vocal pour cérémonies funéraires. Elles ont vraiment une pratique dans la vie. Là-dessus, elles accompagnent des gens lors des enterrements. Elles travaillent avec les familles des défunts et des défuntes pour préparer tout un set musical à présenter lors de la funéraille et d'accompagner véritablement la personne qui est partie et d'accompagner les personnes de leur famille avec quelque chose d'assez pop, d'assez joyeux, quelque chose qui se veut doux dans l'accompagnement de cette vie qui continue. Et puis j'ai été vers 2 autres artistes. La première, c'est Candy Saulnier, qui a aussi une pratique de chant depuis de nombreuses années, qui est notamment prof de chant à l'INSAS. Et j'ai été vers un artiste qui habite maintenant à Barcelone, mais qui est belge et qui s'est spécialisé, lui, dans la comédie musicale. Il s'appelle Anthony Scott. Donc me voilà avec ces 3 cartes blanches. Et j'ai proposé, étant donné que la spécialité des soupirantes, c'est la mort, je me suis dit, on va vraiment faire 3 cartes blanches sur des éléments vitaux. Une carte blanche sur la naissance, une autre sur la vie, une autre sur la mort. Et puis, ce qui est très très chouette, c'est que quand on donne un cadre aux artistes et puis une possibilité d'aller explorer ça, chacun et chacune avait le droit à 1 semaine de résidence au Théâtre de la Vie, bien ils explosent le cadre, ils explosent cette carte blanche. Et c'est ça que je trouve assez délicieux. Donc, on s'est un peu éloigné de la naissance, la mort, la vie, mais tout ça reste quand même dans l'ensemble de ce festival. Et donc, nous voilà avec 3 formats de petits spectacles, et moi j'ai vraiment insisté auprès d'eux et auprès du Théâtre de la Vie pour dire ça doit être des étapes de travail, c'est-à-dire comme c'est des gens qui se posent déjà la question de leur pratique chantante et actante dans la vie, je voulais leur donner l'opportunité de pas présenter forcément une version complètement finie, d'avoir des étapes de travail qui puissent devenir des spectacles dans 1 an, 1 an et demi. Et ce qui est vachement chouette aussi, c'est, je crois que si on propose ça, il peut y avoir un dialogue avec le public qui est de l'ordre de « moi j'ai ressenti ça, ah ce serait chouette si ça évolue vers ça », d'avoir un rôle pour le public dans ces évolutions des cartes blanches. Et on se retrouve donc avec trois formats de spectacle. Le premier s'appelle Miserere. Effectivement, Candice Aulnier est partie du Miserere de Zelenka et incarne ce rôle mythologique de la Sibylle, cette femme qui reste debout au milieu d'un monde qui s'effrite complètement. Et elle a décidé de travailler sur les sons de la guerre et de voir quel est le chant que ça éveillait en chacun et en chacune. Comment son chant mythique naît de ça pour terminer sur le Miserere de Zelenka. Anthony Scott a choisi comme titre Coup de Strass. Lui, il a vraiment été questionné la présence du kitsch dans sa vie et la présence du kitsch dans les comédies musicales, ce qui donne un format assez haut en couleur où tout d'un coup lui-même se demande pourquoi dans la comédie musicale typique londonienne les acteurs s'arrêtent de parler, s'arrêtent de donner leurs répliques pour tout d'un coup se mettre à chanter, pour tout d'un coup se mettre à danser sans aucune raison, et lui-même questionne son rapport au kitsch et donc questionne forcément le nôtre, ce qui donne des choses assez drôles et puis aussi assez dramatiques. Il finit par se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de fantaisie dans cette vie? À quoi on essaye d'échapper exactement? Et le spectacle évolue en questionnant le public sur qu'est-ce qu'on fait de cette fantaisie? Est-ce qu'on continue à vivre avec ou est-ce qu'on décide de la faire taire pour faire face au monde vraiment comme il est? Donc c'est assez haut en couleur, joyeux et dramatique. Et puis on termine avec les soupirantes qui, elles, ont proposé quelque chose qui ne tient pas du spectacle. Et d'ailleurs, le titre de leur présentation s'appelle « Pas un spectacle, mais un soupir ». Elles viennent vraiment nous proposer leur pratique, puisqu'elles ne sont pas, en majorité, elles ne sont pas actrices et comédiennes professionnelles. On a des non-professionnels sur scène, et je trouve ça aussi très très intéressant à explorer. Et elles nous proposent vraiment leur pratique de soupirante, en adaptant ça sur scène, et en nous proposant de prendre part à cette cérémonie qui est extrêmement douce, extrêmement joyeuse. Elles proposent de poser sur la mort un autre angle et une autre façon de voir. Ce qui donne trois formats très très explosés, et on a travaillé vraiment pendant un an et demi par réunion Zoom, puisqu'on avait un acteur qui habite Barcelone. Tous les mois, on se voyait, et l'idée c'était d'avoir un socle commun, c'était de questionner ce qui fait que l'humain, à un moment, a un besoin impérieux de chanter. D'où ça vient exactement ça? Et moi, c'est vraiment une des questions qui m'anime beaucoup. Tous les deux, on fait de la radio, on se rend bien compte qu'on est saturé de son en permanence, saturé de paroles, par exemple, là je suis très long, saturé de paroles en permanence et saturé de musique. Les musiques deviennent de plus en plus saturées en elles-mêmes. Moi, j'ai voulu revenir à qu'est-ce qui fait que la voix se met à chanter et qu'est-ce qui fait qu'une voix chantée se retire de ce statut-là pour se remettre à parler. Il est où cet interrupteur? Qu'est-ce que ça raconte de l'humanité, du berceau de l'humanité? Et ça a été vraiment la base de tous leurs travaux. Donc on retrouve trois projets extrêmement explosés, avec des envies explosées, avec des intensités très très explosées, mais la base de ça, c'est se questionner là-dessus. Et je crois, hier, on a eu notre première générale avec vraiment les trois projets qui suivaient. Je suis ressorti en me disant, ok, je crois que le pari va être gagné. L'idée, c'est que les gens ressortent en se questionnant sur leur état musical à eux. Qu'est-ce qui fait qu'ils se mettent à chanter? Qu'est-ce qui fait qu'ils se taisent? Est-ce qu'ils ont encore de la place pour chanter dans leur vie? Et quelle est la fonction de ces cordes vocales qui se mettent à vibrer pour nous livrer un chant à un certain moment donné?
Et c'est justement intéressant de montrer que ce cycle justement de vie et de mort est lié et qu'ils sont mélangés les uns aux autres, et justement que, comme les soupirantes, célébrer la mort, c'est aussi célébrer la vie avec justement ce voix. Et c'est intéressant ce questionnement de qu'est-ce qui fait passer cette voix d'une voix parlée à une voix chantée, et donc ça donne envie en tout cas d'aller voir et de pouvoir se rendre compte aussi du traitement qui est fait cette question-là par par les différents porteurs des courts spectacles. C'est pas un court métrage, mais
c'est un format.
Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, comment t'es venue cette idée? Est-ce que ça fait suite à un travail que tu menais depuis plus longtemps déjà dans ta propre réflexion et pratique?
Oui, effectivement. Donc moi, je suis comédien avant tout, et la question du chant est venue à moi très très tôt. Étant petit, j'ai fait partie de comédie musicale, qui, je crois que si on retrouve des images, c'est assez kitsch. Mais donc, j'ai toujours chanté. Dans ma famille, on a toujours chanté, et il y a quelque chose du chant très lié à la vie, à la quotidienneté, pas forcément à quelque chose de sacré, même si ça s'est pointé aussi à moi par des biais religieux quand j'étais plus jeune, mais je sais que cet état chantant m'a toujours habité, et je dis toujours que je chantais en marchant ou en faisant la vaisselle, qu'il y avait quelque chose de très très organique. Et puis ça me parle, moi, l'idée des gens qui disent moi je chante pas bien, alors je ne chante que sous ma douche. Je crois que c'est pas rien si on se met à chanter nu avec de l'eau qui nous tombe dessus. Il y a quelque chose de profondément animal là-dedans. Il y a quelque chose qui est entre le cri animal et la douceur qu'on s'apporte, et puis l'intimité. Tout ça est très très fort lié à la voix chantée. Et donc, ouais, ce questionnement-là, il est là depuis longtemps. Quand j'ai fait mes études au Conservatoire de Mons, c'était le sujet de mon mémoire. Qu'est-ce qu'un chanteur actant et qu'est-ce qu'un acteur chantant? Quels sont les liens qui sont à tisser entre eux? Donc, ouais, c'est vrai que ça fait assez longtemps que c'est là. Et puis, bah, moi, ma première radio, c'est ici, à Radio Panique, avec Vanessa Fantinelle. On a co-créé l'émission Panique Cabaret. Et puis, je me suis retrouvé, il y a 7 ans, embarqué sur une autre radio à la RTBF, sur Musique 3, où je me suis retrouvé à écrire des chroniques qui allaient vraiment dans ce sens-là aussi. Je suis un peu spécialisé en chansons francophones, et à chaque fois je prends une chanson chaque semaine, c'est le sujet de ma chronique, et d'aller me dire qu'est-ce qui a pris cette personne d'écrire ça, pourquoi est-ce qu'elle nous livre ça, qu'est-ce que ça renvoie chez nous, de travailler sur l'universel et sur l'intime, parce qu'il n'y a rien de plus intime qu'une voix, il n'y a rien de plus personnel qu'une voix. Il y a une identité vocale propre à chaque être humain sur scène, même si à chaque être humain sur Terre, même si on peut recouper des types de voix. En revanche, c'est la chose la plus intime au monde, la plus personnelle, et ces voix chantées, c'est vraiment une arme de l'intime et du personnel qui est destiné à l'universel. Qu'est-ce que ça nous raconte? Et oui, moi, c'est un domaine qui continue à me poser question, et ce qui est vraiment réjouissant dans ce format de festival, c'est que, comme je le disais, j'ai vraiment envie d'encourager un dialogue entre le public, les artistes, que tout le monde soit en recherche autour de ça, et donc je compte bien, moi aussi, nourrir mon questionnement avec les retours qu'on pourra avoir. Ouais.
Et justement, il y a ce parallèle, enfin cette, je ne sais pas si c'est un parallèle, mais cette façon d'aborder l'acte chanté comme acte individuel, mais aussi comme collectif. Et donc, quand tu parlais, je pensais aussi à tous ces chants qui accompagnent toutes les étapes de la vie sociale et de la vie paysanne, par exemple. Tout à l'heure, je parlais, aujourd'hui c'est le solstice d'été, donc c'est un moment qui a toujours été beaucoup commémoré. Et par exemple, les paysans et paysannes dans les champs, ils chantaient sans se poser la question de savoir s'ils savaient chanter. Et donc, comment c'est venu aussi cette séparation dans nos sociétés, en tout cas, où il y a des gens qui savent chanter et d'autres qui se disent qu'ils ne savent pas?
C'est trop chouette, tu viens de dire, il y a des gens qui se disent qu'ils ne savent pas chanter. Je plus soit complètement, je vais vraiment dans ce sens. Moi, je crois que tout le monde sait chanter. Et tout d'un coup, il y a des gens qui ont décidé de structurer un peu comme on structure les mathématiques et de perfectionner. Donc, ça a donné tout un développement d'ordre harmonique, d'ordre musical. Mais moi, je crois que tout le monde sait chanter. Et justement, c'est aussi un des éléments sur lesquels on a travaillé. Parce que chanter, c'est d'abord de la vibration. C'est une façon de se sentir en vie. C'est juste un souffle qui passe dans des cordes vocales et qui font vibrer tout le reste, puis qui émettent quelque chose à quelqu'un qui le reçoit. Hier, je me disais vraiment, en étant spectateur des trois formes, en prenant des notes, je me disais, mais qu'est-ce qu'on reçoit de vibration, quoi? C'est impossible d'être insensible à ça. C'est-à-dire, on peut apprendre à être insensible à à la voix parlée qui nous interpelle en rue, à quelqu'un qui nous parle et dans les villes de plus en plus. Effectivement, on se ferme les oreilles, on a nos écouteurs et puis, ou alors on nie quelqu'un, mais on n'entend même plus sa voix. En revanche, quelqu'un qui se met à chanter, je défie n'importe qui de pas au moins jeter un œil parce que ça interpelle quelque chose. Et puis, je te rejoins, moi j'aime beaucoup l'idée que le chant, quel qu'il soit, on parle même pas de chant juste ou pas juste, quel qu'il soit, il est vraiment lié à une activité physique. Il est vraiment lié à ce corps qui doit exprimer un truc et permettre d'être ensemble, effectivement, dans l'activité paysanne, mais aussi dans une activité physique, quelle qu'elle soit. Des gens se mettent à chanter. J'étais assez ému il y a 3 jours de croiser juste 2 personnes en rue. L'une se mettait à chanter, l'autre la rejoint sur son chant et il se rendait même pas compte que c'était exceptionnel, cette chose-là. On se couple dans les voix, on se couple dans la chanson. C'est une façon de se rassembler. Et tout ça, de nouveau, dans chacun des projets, avec le Miserere, où on nous envoie... Candy nous envoie vraiment un son qu'elle recherche dans le souffle primaire, qui donne envie de la libérer de son. Et cette chose-là vient vraiment nous soulager après tous les sons de la guerre qu'on reçoit. Que ce soit Anthony Scott qui dans Coup de Strass vient vraiment chercher son identité dans la chanson et se demande pourquoi ça lui parle autant et donc se lâche complètement là-dedans. C'est libératoire de le voir et puis il y a une communication entre nous et lui parce qu'on a envie de se plonger dans ce kitsch Barbapapa qui est quand même assez jouissif à regarder. Et encore plus avec les soupirantes qui nous invitent à chanter avec elles. C'est impossible de ne pas recevoir ces vibrations-là. On est toujours libre d'y participer ou pas. Mais il y a certains moments où c'est automatique, c'est-à-dire une mélodie arrive. Je défie quiconque de résister à cette mélodie et de pas être tenté de rentrer là-dedans. Parce que la voix chantée unit les gens comme la voix parlée n'arrive pas forcément à le faire.
Oui, parce qu'on peut accompagner justement avec cette pure vibration. Et donc, c'est intéressant aussi, dans le dossier de presse, tu dis, qu'est-ce qui fait passer de l'un à l'autre? Et donc, le chant aussi, parce qu'on a l'habitude, tout à l'heure, t'évoquais la personne qui se met à écrire une chanson. C'est la partie écrite, on va dire, les mots de la chanson. Après, il y a tout ce qui accompagne et qui fait que ça devient une chanson et pas juste un texte qu'on pourrait lire.
Oui, tout à fait. Et c'est moi, je suis parti aussi d'un extrait du live de Nina Simone à Montreux en 1976. Elle commence à interpréter une chanson de Maurice Albert qui s'intitule Feelings. Et là, elle s'arrête et elle dit au public: God damn it, bon sang, qu'est-ce que c'est que cette chose? Puis les gens se marrent. Et elle dit: quelle honte il faut ressentir pour se mettre à chanter ça. Et là, les gens continuent à rire. Elle dit: mais je me moque pas du gars qui a écrit ça. Je me dis, sur une chanson d'amour pareille qui est Feelings, qui est aussi simple que juste le refrain dit sentiment, wow, 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 sentiment. Elle dit: quelle sensation, quel fond il faut toucher pour tout d'un coup ne plus avoir les mots à ce point-là pour pouvoir écrire une chanson comme celle-là qui révèle un désespoir et une solitude. Elle met des mots sur l'état qui nous fait produire le chant. Et je sais plus quelle était la question originale, mais en tout cas, il y a moi ce questionnement permanent de se dire dans quel état on doit être, dans quel état d'ouverture au monde ou de fermeture il faut être pour que tout d'un coup ce soit la voix chantée qui prenne le pas sur la voix parlée.
Oui, et justement, peut-être que c'est pour ça qu'on ne chante plus, parce qu'on est trop renfermé physiquement, on est trop... Et on est dans une société où on renferme les corps, justement, sans leur laisser la possibilité de pouvoir justement laisser libre cours à ce chant intérieur.
Mais je crois que ça peut faire naître un autre chant du coup. Là, il y a aussi des chants libératoires, des chants de gens qui ont été opprimés, seuls ou en groupe, et qui tout d'un coup, de là, comme une bougie se rallume mystérieusement, c'est le chant qui vient donner un nouvel espace de liberté. En revanche, je crois qu'effectivement, on est tellement saturé de sons dans tous les sens, on nous propose des podcasts en permanence, des playlists interminables en permanence, que vous savez, c'est un peu comme ce qu'on a eu pendant le confinement. Quand les gens se sont enfermés, moi j'ai jamais vu les oiseaux chanter autant, et j'avais vraiment l'impression que les oiseaux disaient « Maintenant je reprends ma place, ok ? C'est la place de ma voix !» Et pour qu'il y ait du chant, il faut qu'il y ait du silence avant, assez bizarrement. Donc je crois que ça c'est un espace de liberté qu'on peut tous s'offrir, et de voir comme on est étonné, comme le chant vient remplacer ce silence assez doucement. Et ça aussi, ça fait partie des questionnements qui sont abordés lors de ce festival.
Et justement, comme tu le dis, le silence, il n'existe presque plus maintenant dans nos sociétés. Enfin, il y a des études qui montrent que justement, il y a peu d'endroits au monde où il y a un véritable silence non occupé par l'activité humaine, en tout cas. Et donc, c'est problématique. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a aussi la partie des soupirantes qui nous invitent à participer, mais il y a un autre moment aussi qui est prévu, je pense, avec Candy Saulnier.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a, oui, Candy Saulnier propose un atelier, ça c'est ce vendredi, je crois à 19h, pardon, à 17h, elle propose, elle a travaillé avec une chorale qui s'appelle Aoussa, et elle propose un échange entre des chants traditionnels marocains et des chants traditionnels bretons, parce qu'elle est bretonne d'origine, et de voir comment, de façon très très spontanée, n'importe quelle voix, justement, des voix qui sont pas calibrées pour être en représentation, etc. En fait, c'est pas la question, c'est comment des voix se joignent aux autres pour célébrer ces vibrations. Et puis même en dehors de ce festival, au lieu ou à le bar du Théâtre de la Vie, il y a différentes petites choses. On a pensé à des playlists qui justement travaillaient sur des textes qui étaient pas faits pour être chantés à la base et puis qui sont devenus des chansons. Et inversement, des chansons dans lesquelles les gens finissent par parler. Donc on part vraiment du Sprechgesang dans l'opéra allemand, jusqu'au rap, jusqu'au slam. Il y a vraiment tout un parcours d'ici là. Donc ça, c'est des playlists. Et puis on a installé une douche aussi, parce que comme je le disais, moi je suis très très sensible aux gens qui disent moi je chante sous ma douche. On a mis un micro dans une douche. Alors je vous rassure, vous pourrez garder tous vos vêtements, mais on vous propose de nous livrer la chanson que vous chantez sous votre douche, et de vraiment la livrer sous notre douche, mais comme sous la vôtre. C'est-à-dire, si tout d'un coup vous voulez chanter du Bon Jovi en hurlant, si vous voulez faire un rap, c'est tout à fait possible. On a un micro qui ne diffuse pas forcément dans le reste du bar, donc il y a moyen que ce soit assez intime aussi. Mais on propose ensuite, à chaque fois, le lendemain du jour où ça a été enregistré, de mettre dans une des playlists la possibilité aux gens d'aller écouter des gens qui chantent sous leur douche. Et moi, je crois que ça peut être très très libérateur, surtout que les projets sont assez intenses les uns après les autres, et que entre deux, une bonne douche pour nous livrer votre chant, ça peut être vraiment pas mal. Donc oui, on vous invite vraiment à nous livrer aussi votre voix. Et si vous voulez commander un verre en chantant, par exemple, c'est aussi possible.
On va se retrouver avec un public chantant,
oui,
ça va.
C'est merveilleux. C'est merveilleux.
Voilà, je ne sais pas si tu as d'autres. J'imagine que comme c'est ton projet, que vous le portez depuis de nombreux mois, un an et demi, tu as plein d'autres choses à dire auxquelles j'aurais peut-être pas pensé, mais en tout cas, ça donne fort envie de venir. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler l'heure, l'endroit?
Donc ça se passe à 20h, c'est trois formes courtes entre 30 et 35 minutes, ça s'appelle le Festival des mots des notes, et c'est au Théâtre de la Vie, c'est rue de la Traversière, Et c'est donc tous les soirs à 20h, la première partie, le Miserere, porté par Candide Saunier et mise en scène par Ingrid von Vantok-Rekowski. La deuxième partie de 30-35 minutes, eh bien, c'est Anthony Scott qui nous présente Coup de Strass et c'est Guillaume Druet qui l'a mis en scène. Et puis en fait, pour terminer la soirée, on vous propose Les Soupirantes, qui est ce collectif vocal pour événements funéraires. Et ça, c'est un spectacle qui s'appelle Quelque chose comme un soupir, pas un spectacle. Et après, on vous propose évidemment de nous retrouver au bar et d'échanger avec nous. Et ce sont aussi, je tiens à le dire, des artistes que j'ai choisis parce que le caractère humain dépasse largement le caractère artistique. Il y a vraiment une volonté d'échanger et de passer de jolis moments. Donc de toute manière, vous passerez un beau moment 22, 23 et 24 juin au Théâtre de la Ville.
Et juste me vient, merci beaucoup. Et donc ces soupirantes, on peut les convier à nos funérailles, enfin.
Tout à fait. Bah, pas aux vôtres, pas tout de suite, j'espère. Mais effectivement, elles sont. D'ailleurs, c'est assez drôle. Elles me confiaient hier pendant la générale qu'elles avaient accepté une cérémonie funéraire le matin de la première. Donc, c'est-à-dire que ce soir, elles font leur générale. Demain matin, elles sont à des funérailles pour accompagner une famille avec qui donc elles ont travaillé. Elles vont expliquer leur démarche justement au festival des mots des notes. Mais donc elles accompagnent un rite funéraire le matin même du jeudi et le jeudi soir elles sont sur scène. Je crois qu'elles c'est vraiment là pour le coup ce collectif, il est impliqué dans la vie, je veux dire leur métier n'est pas d'être sur scène, leur volonté c'est d'être dans la vie et de refuser aucune de ces choses-là. Mais c'est vrai qu'hier soir en tant que commissaire de ce festival, j'ai dit, vous êtes sûr que c'est une bonne idée de faire ça le matin? Ils m'ont dit, bah en fait, c'est le spectacle n'est pas notre but premier. Donc oui, on va rester sur notre but premier. Il y a une intégrité et une beauté. Et en même temps, je me suis dit, bah oui, évidemment, c'est logique. Donc ouais, elles vont accompagner une famille le matin même de leur première représentation.
Et comment vous êtes entré en contact, du coup? Comment leur est venue aussi l'idée d'accepter?
En fait, je les ai rencontrés à une exposition d'un monsieur très talentueux qui s'appelle Émile Barret. Et c'était une exposition sur les arts funéraires qui s'appelait Mort is Mort, qui se faisait à la Brasserie Atlas à Anderlecht. Et moi-même, je participais à une performance complètement différente, aussi sur le chant, mais complètement différente autour des arts funéraires. Puis je les ai vus débarquer et j'ai dit, mais c'est génial, moi si je me fais enterrer, j'ai envie qu'elle soit là. Et ça coïncidait plus ou moins avec le moment où Peggy Thomas m'a proposé de prendre en charge des mots des notes. Donc la première chose que j'ai fait, c'est alors clairement une des trois cartes blanches, elles sont pour ces femmes. Je me suis vraiment jeté dessus en disant, je vous en supplie, dites-moi oui, parce que pour moi ça avait un sens. C'est vraiment parti d'elle, cette idée de faire la naissance, la vie et la mort, parce que ce qu'elle proposait pour moi s'inscrivait tellement dans la vie, et c'est vraiment ça que j'ai envie de voir sur scène, que voilà, je leur ai proposé le deal. Elles ont tout de suite embarqué avec vraiment beaucoup d'enthousiasme.
Et c'est chouette parce qu'on a toujours cette image que ça n'existe que bien loin d'ici et qu'ici on ne fait plus, enfin on ne pleure plus non plus aux cérémonies d'enterrement.
Oui, c'est vrai. Je crois que c'est, en tout cas, il y a un questionnement maintenant sur notre façon de traiter nos défunts et nos défuntes. Je crois que on a eu un truc il y a 2 ans qui s'appelle le Covid qui nous a éloignés et qui nous a fait nous rendre compte à quel point on pouvait plus se débarrasser à ce point-là de nos morts en se disant voilà, c'est fini, on les met dans la boîte et c'est terminé. Qu'on avait besoin d'un travail de soin par rapport, et le soin c'est vraiment au centre de leur travail, par rapport à la vie et par rapport à la mort, et que la façon dont on traitait de nos morts montrait beaucoup comment on vivait. Donc je crois qu'il y a de plus en plus de pratiques qui se réveillent comme ça, de questionner la façon dont on fait un rite funéraire. Et moi je crois que le rite funéraire, il est fait plus pour les vivants que pour les morts, il est fait pour apaiser quelque chose. Et donc l'invitation de plus en plus à le faire dans la joie ou dans quelque chose qui s'inscrit dans la vie. C'est en Occident hein, qu'on a vraiment traité ça, qu'on a sous-traité ça avec des boîtes qui s'occupent de nos morts, qui les éloignent de nous surtout, où on met en scène une séparation extrême. Mais ça reste minoritaire dans beaucoup de cultures. On prend soin des vivants en prenant soin des morts et inversement. Et le chant a une place assez centrale là-dedans.
Et justement, tout à l'heure, j'expliquais par rapport à ce solstice et aux célébrations païennes qu'il peut y avoir que ces jours qu'on célèbre dans ces calendriers, que ce soit Wicca, c'est des jours où la frontière justement entre la vie et la mort, entre les vivants et les morts, est vraiment minuscule. Donc c'est le moment d'aller parler avec ces morts et d'aller parler avec les fées ou tout autre être auquel on peut penser.
Oui, et si on n'a pas une pratique de cet ordre-là, je veux dire, c'est déjà s'offrir une délicatesse dingue de, par exemple, se chanter la chanson que votre grand-mère vous chantait, que vos parents vous chantaient, ou tout simplement être sensible à une chanson en se disant, tiens, elle ou il aurait adoré ça, et de pouvoir la fredonner en souvenir, en fait prendre soin aussi des souvenirs. Le souvenir n'est pas un truc qu'on fout dans la terre de loin, c'est prendre en charge tout ça, et de nouveau les soupirantes le font d'une manière tellement douce, tellement bienveillante, sans mièvrerie, qu'en fait quand elles nous invitent à rentrer là-dedans, il y a quelque chose d'assez évident. Et je tiens aussi à rassurer les auditorices, c'est que cette partie-là est plus participative, on est invité de façon très très douce à rentrer dedans. Et si on veut pas rentrer dedans, il y a totalement la possibilité d'en être juste spectatrice et de rester sur son siège. On n'échappera pas à cette forme de douceur, mais personne n'est obligé de rien dans ce festival. On fait très très attention à la liberté de ça. Mais je défie n'importe qui de pas ressortir de ce théâtre en imprimant quand même un chant dans la rue, quoi. Je serais vraiment étonné que ce soit pas le cas.
Eh bien, on se réjouit en tout cas de pouvoir assister à ce festival les trois prochaines soirées, donc à partir de demain jusqu'à samedi. Est-ce qu'il faut réserver? Est-ce que voilà, ou on peut juste se présenter?
Oui, bien sûr, il vaut toujours mieux réserver, parce que j'ai appris que ça remplissait déjà pas mal, donc ça c'est réjouissant. Il vaut mieux réserver, on peut réserver en passant sur le site théâtredelavie.be, ou alors il y a un numéro de téléphone, le 02 219 60 06. Vous tapez Théâtre de la Vie sur internet et tout ça se retrouve assez facilement, mais effectivement il est plus prudent de réserver.
Eh bien, merci beaucoup, Réal. Cette fois-ci, je pense qu'on laisse le suspense pour ceux et celles qui iront assister à l'une des trois soirées. Merci beaucoup d'être venu et désolé pour le petit souci technique, hein, mais on s'en est bien sorti.
Oui, je crois aussi. Les problèmes techniques, ça fait partie de la vie. Bonne journée à tous et à très bientôt.
Et nous, on continue ces promesses de l'aube en musique. Réal avait proposé qu'on écoute justement ce live à Montreux, ce Feelings de Nina Simone. Malheureusement, je n'ai trouvé que la version qui dure 17 minutes. Et donc c'est un medley, mais je propose de le lancer et puis le temps de vous saluer. Et donc on a écouté avant l'entretien Miserere de Zelenka et puis Sister Suffragette, qui est un extrait de la bande originale de Mary Poppins. Voilà, et c'était Glynis Jones qui chantait. Et donc on commence avec Nina Simone et puis on verra où ça nous mène.
Like the last light of the sun, all in a blaze. All you see is glory. But it gets lonely there when there's no one there to share. You can shake it away. If you hear a story. People lust for fame, like athletes in a game. They break their collarbones and come up swinging. Some of them are crowned, some of them are downed. Some are lost and never found. But most have seen it all. They live their lives inside cafes and music halls. And they always have a story. Some make it when they are, before the world has done its dirty job. Later on, someone will say, you've had your day. Now you must make way. Don't they always? But you never know the pain of using a name you never owned. The years of forgetting what you know too well. That you who gave the crown have been let down. You try to make amends without defending. Perhaps pretending you never saw the eyes of young men at 25. Who followed as you walked, asked for autographs, kissed you on the cheek. You never could believe they really loved you. Never. Some make it when they're old. Perhaps they have a soul they aren't afraid to bear. Perhaps there's nothing there. But anyway, that isn't what I meant to say. I meant to tell about a story, since we all have stories. Can't remember it anyway, so I'll tell about the mood that's in the United States today and permeating even Switzerland. It goes